Sécurité incendie.
On a de la visite en studio aujourd'hui après un début de semaine plutôt tranquille en ce qui me concerne. Donc, on a le directeur du CIAL, M. Jean Melançon, et Sonia Collard, qui est conseillère en sécurité civile. Bonjour, ça va bien?
M. Blanchette, bon matin. Bon matin.
Donc, on vous a invité, ou en fait, vous nous avez fait part de votre intention de venir pour qu'on puisse parler de débit, de ses conséquences et comment est-ce qu'on a réagi à ça ici.
Bien, d'abord, c'est notre chronique mensuelle avec vous. On est toujours content d'être là, puis de parler à nos citoyens par l'entremise de vos ondes. C'est très, très, très satisfaisant pour nous. Une grosse semaine la semaine passée. J'aimerais, dans le fond, on voudrait passer aux citoyens l'importance de s'inscrire au site des villes pour recevoir les alertes à la population. Ça, c'est hyper important parce que vous allez recevoir par texto, par courriel et aussi par téléphone de l'information provenant des villes en cas de mesures d'urgence.
Comme les avis d'ébullition,
par exemple, ou LRS. Donc, c'est important d'aller s'inscrire, d'aller sur les sites des cinq villes de l'agglomération. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi aux citoyens, c'est comment ça fonctionne en amont. Tu sais, les villes, on n'est pas statique, on est dynamique. Donc, comment ça fonctionne? Quand il y a des éléments anticipés, météo ou autres, bien, on fait une cellule de coordination opérationnelle. Je vais laisser Sonia un peu expliquer c'est quoi une cellule de coordination opérationnelle pour le citoyen.
Bien, en fait, Jean, tu as tout à fait raison. Et c'est ce qu'on a mis en place la semaine dernière pour gérer débit qui est venu nous visiter et les avis d'ébullition par la suite. Bien, une cellule de coordination opérationnelle, communément appelée à l'interne une CCO, c'est une structure qu'on a mis en place pour anticiper la mise en place d'éventuelles mesures d'urgence. Autrement dit, la direction générale ou les directeurs de différents services, de différentes directions, peuvent lever un drapeau et dire « j'anticipe une situation qui pourrait générer des mesures d'urgence ». Donc, à ce moment-là, on nous fait part de cette information-là et on met en place une cellule de coordination opérationnelle, une CCO, et puis là, on réunit les gens, les directions concernées, et là, on partage l'information sensible à savoir qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur les citoyens, qu'est-ce qui pourrait avoir un impact sur l'organisation, sur les bâtiments, sur le transport, bref, sur tout ce qui touche la gestion municipale au niveau des urgences. Donc, la semaine dernière, on s'est amusé, on en a fait plusieurs en peu de temps.
Oui.
C'est 8 CCO qu'on a tenus entre jeudi matin, le 8, et le dimanche, je crois, c'est à midi qu'on a fait la dernière. Donc, c'est beaucoup de réunions en peu de temps. Mais là, les gens vont dire, ouais, là, vous réunissez, vous placotez, vous parlez. Non. C'est des petites réunions, toutes courtes, en Teams, parce qu'on n'a pas à se déplacer, on n'a pas ce temps-là à perdre pour se déplacer, pour donner de l'information vraiment particulière pour pouvoir permettre aux autres directions et tout un chacun de bien gérer la situation sur le terrain.
Parfait. Et puis, bien là, vous avez commencé à faire ça à cause que vous regardiez la météo?
C'est ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, comme tout le monde, on voyait à la météo que les choses allaient se corser éventuellement. Et plus ça approche, plus on a des patrons, des modèles météo qui se précisent. Nous, au Bureau de la sécurité civile, comme pour les travaux publics, comme pour le génie aussi, on a un œil sur la météo constamment parce que les risques peuvent venir et viennent, surtout de ce champ-là. Ben oui. Donc, on voyait venir débit et là, le COG de Québec, l'organisation gouvernementale.
Le Centre d'opérations gouvernementales.
J'oublie tout le temps le O. Nous envoyait de l'information. La région nous envoyait de l'information. Et bien sûr, Environnement Canada nous envoyait l'information précise pour notre région. Lié à ça, on regardait différents modèles météo et on était alertés relativement longtemps d'avance. Donc, à partir de mardi 6 août, on a levé le drapeau, nous, au Bureau de la sécurité civile, et rapidement, on s'est mis en fonction pour réunir les directions concernées pour pouvoir agir là, le plus efficacement possible là, pour voir venir la température.
Et concrètement, ce que ça veut dire, bien, pour chacune des directions, on dit, voici ce qui s'en vient. On annonçait entre 50 et 100 mm de pluie, finalement, il y en a eu plus. Maintenant, comment chacune des directions se prépare? Je vous donne un exemple au CIAL, au service d'incendie, nous, bien, on a rajouté des effectifs en lien avec ce qui s'en venait, au-delà des effectifs, donc des effectifs réguliers. On faisait la même chose avec la police, le 911, la direction des communications et des affaires publiques, le 311. C'est toute une coordination, justement, pour s'assurer, quand on fait des mesures en place, bien, de le communiquer aussi aux citoyens, qui est tout un défi par le 311, par aussi la direction des communications et des affaires publiques. Donc, comment s'arrimer ensemble pour être cohérent puis faire face à la situation de cochon?
Tout à fait. J'imagine que pendant une période comme celle-là, il y a beaucoup de balles dans les airs. Il y a beaucoup de choses à coordonner en même temps. Puis on ne veut pas en échapper une parce que ça peut avoir des conséquences assez sérieuses pour les citoyens de se retrouver pas de service, par exemple.
Exactement. Puis dans une gestion de crise, il y a toujours, au début, c'est toujours un peu chaotique. Et après ça, bien, tranquillement, pas vite, on s'organise davantage. Mais en amont, on se prépare justement pour s'assurer d'être efficace et d'être prête à faire face à la situation. Évidemment, il y a toujours une période de débordement qui est tout à fait normale. Je vous donne un exemple. On a reçu, en moyenne, nous, le service d'incendie, on a une trentaine d'appels par jour. Mm-hmm. On a eu 700 appels dans une journée en lien avec les inondations. Fait que ça vous donne une idée des événements climatiques. Oui. Ça vous donne une idée de l'impact. Fait que même si on a rajouté des effectifs additionnels, c'est certain qu'il y a un goulot d'étranglement à un moment donné, mais on est là pour prioriser les appels puis s'assurer de bien rencontrer les urgences et les besoins des citoyens.
Quel genre d'intervention est-ce que les pompiers font dans le cas d'une inondation, justement?
Bien, souvent, les gens sont au dépourvu. Donc, ce qu'on fait, on va sur place pour aider. Les gens, ils ont de l'eau dans leur sous-sol. On s'assure de la sécurité. On va pomper de l'eau, permettez-moi l'expression un petit peu rapidement, le cas échéant. Mais on va s'assurer de la sécurité des citoyens, bien, fermer le courant, leur donner des conseils d'usage, puis on va passer à d'autres appels, le cas échéant. Il y a eu des pannes de courant en même temps, des personnes prises dans les ascenseurs. Quand il y a du vent, les branches d'arbres qui tombent sur les fils électriques. Donc, c'est un paquet d'appels. Dans le fond, quand le citoyen est mal pris, on sait pas qui appeler, on appelle au 911 et on dépêche les pompiers qui sont là pour...
Vous êtes souvent les premiers intervenants.
Exact. Pour aider dans différentes situations.
Parfait. Puis là, comment ça se passe là, depuis justement la tempête qui a eu lieu ce week-end dernier? Où est-ce qu'on en est rendu? Là? On voyait dernièrement le ministre Bonnardel est sorti la semaine passée, pas la semaine passée, qu'est-ce que je raconte? Hier, en fait, pour un peu constater, rassurer la population. On sait bien que c'est pas le ministre lui-même qui va mettre l'épaule à la roue pour ramasser des branches cassées, tout ça, là, mais justement, où est-ce qu'on en est ici?
Ben, en fait, nous, quand il y a un événement, durant l'événement, on appelle au COG, là, que Sonia parlait tantôt, le centre d'opération du gouvernement. Donc, ce que ça fait, le COG, c'est que ça l'informe dans une région, voici ce qui se passe. Et eux, ce qu'ils font, ils transmettent l'information aux politiques pour s'assurer que, dans le fond, le politique soit informé de ce qui se passe partout sur le territoire québécois. Et nous, c'est notre mandat chez nous, c'est de transmettre l'information. Évidemment, là où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, bien là, c'est les citoyens qui sont encore dans leur réalité. Ils appellent au 3-1, ils appellent à la ville, voir comment on peut supporter. Là, c'est le défi des assurances aussi. Là. Ça touche moins la ville à ce moment-là, là, mais... On est toujours là, la ville est toujours là pour supporter les citoyens et aider. Là. Si les gens ont des questions, ils peuvent appeler au 3-1, ils peuvent appeler dans les villes pour avoir de l'information. On peut leur transmettre de l'information additionnelle.
Là, je pense que c'est Beneva, un représentant de cette compagnie d'assurance-là, qui disait qu'il n'y avait pas vu autant de réclamations que depuis la période de la crise du verglas, en fait.
Absolument.
Donc, il y a énormément de réclamations. Puis là, il y a plusieurs cas qui sont litigieux parce que les assurances ne veulent pas nécessairement aider les gens à se relever de ça. Fait que c'est un petit peu difficile, mais je lisais aussi, je pense que c'est le ministre qui mentionnait qu'il y a de l'argent qui est disponible, il y a un site web sur lequel les gens peuvent aller remplir un formulaire et peut-être avoir de l'argent comme ça pour se relever des conséquences de débit, mais c'est pas tout le monde qui est admissible.
Exact, il y a différents programmes avec des réalités, donc l'important c'est d'aller s'informer sur les sites internet ou appeler à la ville aussi, le COGM, ou au gouvernement du Québec aussi pour avoir si vous êtes admissible le COGM. Puis ce qui est difficile dans les situations comme ça, où les gens restent en appartement, par exemple, tu restes dans un sol, ton logement n'est plus habitable. Là, c'est de trouver un autre logement qui est tout un défi dans le contexte où la pénurie de logements est très importante, autant dans l'agglomération que partout au Québec. On en parle assez dans les médias.
Tout à fait. De logements abordables.
Aussi.
Mais vous avez sûrement aussi, il y a des logements d'urgence, je présume, qui sont disponibles.
Bien, nous, on travaille avec la direction culture, sport et développement des communautés qui s'assure, eux, avec essayer de trouver des logements avec nos partenaires dans la crise des logements. Il y a aussi, quand il se passe une tempête comme on vient de vivre, il y a l'itinérance aussi qu'on vit sur le territoire. Comment supporter ces gens-là aussi, qui sont des citoyens comme tout le monde, puis comment on peut les aider là-dedans. Fait que la ville aussi intervient pour supporter l'ensemble de nos citoyens.
Dans les campements temporaires, là, les gens qui ont dû avoir de lourdes conséquences après la...
C'est pour ça qu'il y avait un suivi avec la direction de la culture, sport et développement des communautés, avec le service de police, avec nous, le CIAL aussi, où on suit d'heure en heure avec les collègues, voir comment on peut supporter l'ensemble des citoyens, dont nos personnes en situation de vulnérabilité.
Puis vous devez être sur le qui-vive aussi pour les prochaines tempêtes qui s'en viennent. Il y a Ernesto là, qui vient de passer en ouragan, là, de tempête tropicale à ouragan au large des côtes de Porto Rico. Ça s'en vient tranquillement. On n'est pas sûr que ça va s'en venir. C'est encore trop tôt pour savoir si ça va rentrer sur le territoire. Mais
nous on suit ça, comme Sonia disait tantôt, on suit ça de près. Et le défi, c'est souvent, à long terme, c'est ce qu'ils annoncent, c'est difficile. Il faut attendre presque à la dernière minute pour savoir que la météo va être précise, puis c'est ça qu'on va faire face. Mais on parle de changement climatique.
Oui,
on est dedans, là, c'est cette réalité-là. Là, ceux qui ont doute, là, malheureusement, c'est la réalité. Moi, ça fait plus de 35 ans, je suis dans le domaine, puis on n'a jamais eu autant d'événements qui nécessite autant de déploiement là, de différentes directions de la ville.
Puis ça va aller en augmentant.
Et ça va aller en augmentant. Donc, c'est pour ça qu'aussi les villes demandent aussi au gouvernement du Québec comment on devrait s'arrimer davantage tout le monde ensemble, comment financer aussi les villes pour faire en sorte de se préparer davantage au changement climatique.
Non, puis,
et aux conséquences.
Oui, c'est ça. Puis là, on parle de la pluie abondante ici, mais ailleurs, c'est les feux, comme en Grèce ou en Alberta, où ça demande énormément de coordination pour faire face à ces nouveaux problèmes-là auxquels on a déjà fait face, mais pas dans cette fréquence-là, dans cette grandeur d'importance-là aussi.
Mais rappelons-nous l'été passé avec les feux de forêt au Québec. Là,
oui, tout à fait.
Saint-Île, sur la Côte-Nord, tout ça. Donc, c'est cette réalité-là, malheureusement, de plus en plus.
Bien, écoutez, merci énormément de faire le travail que vous faites parce que vous nous gardez en sécurité ou en fait nous sortez du pétrin quand on se retrouve dans des situations qui sont franchement désagréables.
Et c'est vraiment un travail d'équipe et c'est l'ensemble des directions de la ville qui travaillent pour vous.
Oui.
Soyez assurés de ça.
Parfait. Bien, merci énormément d'être passé nous parler de ça, M. Jean Mélenchon. Puis je rappelle aussi qu'on avait Sonia Collard, qui est conseillère en sécurité civile. Donc, on va se retrouver dans un mois, j'imagine.
Avec plaisir.
OK. Merci bien.
Merci, M. Mélenchon.
Au revoir. Sécurité incendie.